Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Women of the Seas. Le podcast des aventurières de la mer.
J'ai tellement l'habitude de me préparer à la surface avant de descendre, toujours un peu un même protocole, j'ai même plus l'impression que je fais quelque chose, mais je fais certainement quelque chose. J'allonge énormément mon rythme respiratoire, je ferme les yeux, je suis concentrée. Je fais pas beaucoup de tralala, de préparation avant de plonger, et parce que je fais plus de plongée profonde. Je suis pas du tout dans... Je me mets en état de méditation et je fais 150 salutations au soleil. Et sur les tournages, il y a souvent une ambiance très détendue et très douce. J'essaie de tout faire un peu au ralenti, donc il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de course, il n'y a pas de tout ça. Donc je me mets dans un état un peu de calme. Alors c'est peut-être une forme de méditation, hein, mais je ne me pose pas en lotus sur mon tapis de yoga. Je fais des étirements, évidemment, hein, parce que je vais quand même danser sous l'eau.
Julie Gauthier, 41 ans, apnéiste, réalisatrice et conteuse d'histoires sous-marines.
J'étais pas du tout préparée à faire de l'image sous-marine. Moi, j'ai découvert la chasse sous-marine avec mon père alors que j'avais 11 ans, donc à l'île de la Réunion. Et j'ai développé mon rapport à l'eau par cette pratique. Voilà, j'ai été élevée dans l'eau, j'ai vraiment une culture de la mer, de la vie animale, du respect du milieu marin. Et ce n'est qu'à 18 ans que j'ai découvert l'apnée pure. En fait, je descendais profond pour pouvoir attendre les poissons, pour pouvoir découvrir le milieu marin, mais je ne savais pas que c'était une discipline à part entière. Et en fait, dans les journaux, à La Réunion, un jour, il y a eu un article sur deux champions. Nathalie Derea, qui était une championne en dynamique à l'époque, et Andy Le Sos, qui était un champion d'apnée en apnée statique, et qui parlait de leur club d'apnée qu'ils avaient monté juste en bas de chez moi. Et mon père est tombé sur l'article et il m'a dit il faut absolument que tu essayes ça. Et du coup, j'ai essayé l'apnée pure et évidemment, j'étais plutôt douée vu que ça faisait déjà des années que j'étais dans l'eau, donc j'étais loin d'être une débutante. Donc j'ai progressé très vite et j'ai tout de suite énormément accroché la discipline. C'est un an plus tard où j'ai commencé à faire vraiment de la compétition et donc je me suis un peu plongée là-dedans parce que j'étais à un âge aussi où j'avais énormément besoin de me prouver à moi-même, de prouver aux autres, où j'étais plus dans une optique de compétition et de montrer un peu ce dont on est capable. J'ai été sélectionnée pour les championnats du monde d'apnée qui se déroulaient à Nice en 2000. Et c'est là que, pour la première fois, je rencontre Guillaume Néry, qui a été mon conjoint pendant 15 ans et avec qui, derrière, j'ai développé toute ma carrière. Et avec lequel j'ai aussi développé ma carrière de compétitrice parce que lui était déjà extrêmement avancé, était champion et du coup j'ai suivi un petit peu son parcours et pendant longtemps on a été tous les deux embarqués finalement dans la quête de la profondeur. J'ai battu deux records de France en apnée en poids constant, c'est-à-dire la descente le plus profondément possible à la palme, force des palmes, donc du coup sans aide. Et ça c'était vraiment ma discipline favorite, la discipline qu'on pratique finalement quand on fait de la chasse sous-marine. Donc il se rapprochait le plus de ce qui me ressemblait, de mon rapport à l'eau finalement. Mais au fur et à mesure, je me suis éloignée finalement de mon rapport primaire à l'eau que j'avais découvert avec mon père, qui était d'utiliser finalement l'apnée comme un moyen et non comme une fin. L'apnée, c'est complètement, l'apnée pure, c'est un moyen, c'est utiliser cette inspiration pour aller le plus profondément possible, et c'est plus une quête intérieure, une quête de dépassement de soi, qui finalement ne me convenait pas. Comme approche, et les échecs étaient plus douloureux, avaient plus d'impact sur moi que les réussites. Quand je réussissais, je disais super, un record de France, oui, ok, c'est bien, mais finalement ça me nourrissait pas. J'ai eu plusieurs échecs derrière qui m'ont fait comprendre que finalement j'avais pas envie de continuer sur cette voie, mais j'avais la profonde intuition que j'avais quelque chose à faire avec cette capacité que j'avais à rester en apnée, ce lien à l'eau que j'avais depuis mon enfance, et cette aisance et cette compréhension du milieu. J'avais beaucoup de peine à m'en défaire, à m'en séparer, parce que je n'avais pas idée qu'on puisse faire autre chose que de l'apnée en profondeur finalement avec ça. Et donc un jour, alors que j'avais arrêté la compétition et que je rejoins Guillaume aux Bahamas lors d'une compétition, il m'a dit « Écoute, lui, il est passionné de photos. » Donc on avait un appareil photo qui faisait aussi des vidéos. Il m'a dit « moi j'aimerais bien faire une petite vidéo, ça te dit pas de me filmer ?» J'ai fait « Bon, pourquoi pas hein. ?» J'ai jamais touché une caméra de ma vie, je sais pas comment ça fonctionne, mais dis-moi comment ça marche. Voilà, donc j'avais mon petit écran, je voyais un peu les rendus, je tripotais un peu tous les boutons. Et on a commencé à faire des images de ce fameux film qui s'appelle Free Fall et qui a fait le tour du monde, à notre propre étonnement, hein, parce que vraiment, on s'attendait pas du tout à ça. On était très contents de nous, on a fait nos petites images, on a monté tout seul en rentrant le soir, on a pris 4 jours pour peaufiner un petit peu tout ça, et on a lancé ça sur le net. Et bim, énorme succès. Et moi, je prends énormément de plaisir à dire waouh, je peux utiliser mes capacités en apnée pour créer de la beauté et pour faire travailler ma créativité. Et là, ça a été le coup de foudre. Voilà le début de dire oh, mon Dieu, ça y est, j'ai découvert ma voie, j'ai découvert ce que je pouvais faire finalement de cette capacité assez unique, me mouvoir dans l'eau et de ressentir l'élément et de pouvoir transmettre ce que je ressentais dans l'eau. Alors après Free Fall, le succès a fait que j'ai pris un petit peu plus confiance, parce que quand on vient pas du milieu de l'image, ça paraît un petit peu un monde inatteignable, inaccessible. Hein. Et donc je me suis dit, peut-être que j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à faire, et j'ai les capacités pour pouvoir mettre à profit mon imagination. Et ça faisait 2 ans qu'on était ensemble avec Guillaume, et un beau jour, il décide de me parler de ses hallucinations. Il me raconte, j'ai des narcoses quand je descends, j'ai vu un gremlins qui ricanait et qui sautait sur place. C'était sa première narcose de tous les temps, hein, quand il avait fait son record à 86 mètres ou un truc comme ça. Il dit, je nous ai vu nous marier, des fois je vois des personnages et tout ça. Et j'ai halluciné qu'il ne m'ait jamais parlé de ça avant. Alors est-ce qu'il avait lui-même une espèce de peur intrinsèque de parler de ça, d'être pris un peu pour info, parce que ce n'était pas trop connu à l'époque. Et moi, quand il m'a raconté ça, j'ai vu un univers extraordinaire, hyper onirique et hyper intéressant à mettre en image. Donc tout de suite dans ma tête, j'ai commencé à voir les images, à transformer le Gremlins, à voir le mariage sous l'eau, et toutes ces images se sont construites et j'ai commencé à écrire. Et c'est grâce à un ami qui est aujourd'hui mon chef opérateur, qui s'appelle Jacques Ballard, ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble, qui était lui dans le milieu et qui m'a dit « Écoute, moi ton idée je l'adore, je vais t'aider », et c'est lui qui m'a apporté tout son soutien au niveau de la confiance, au niveau de l'apport technique, au niveau de toutes ses connaissances pour faire un tournage. Narcose, j'ai commencé par énormément écrire, parce que le plus important, c'est ça, c'est de mettre à plat toutes ces idées. Donc, de toutes ces visions que j'avais, je devais créer une cohérence pour pouvoir faire un film. J'avais pas envie de faire juste un bout à bout de belles images, j'avais envie de raconter quand même une petite histoire. Donc, de toutes ces visions, il a fallu que j'écrive une trame, et cette trame, C'était, quand on regarde bien, c'est basiquement l'histoire de notre vie de couple avec Guillaume, avec la rencontre, avec l'apnée. Et j'avais surtout aussi envie de montrer l'apnée sous un jour différent. C'est-à-dire que souvent, on monte la performance, on monte le côté extérieur, on monte les muscles, on monte la respiration. Mais ce que je trouvais hyper intéressant et qu'on n'avait pas du tout abordé, c'était l'aspect psychologique de l'apnée, tout ce qui se passait à l'intérieur, tout l'aspect mental. Et ça permettait en plus de partir dans quelque chose de fictionné super intéressant, et ça me permettait à moi de libérer complètement ma créativité. Donc j'ai écrit, voilà, tout ce qui me venait, et j'ai essayé de construire des ponts et entre ces différentes séquences, de les organiser et de créer une logique finalement entre ces différentes séquences pour amener le spectateur dans une histoire. Quand j'ai fini l'écriture et que j'ai vu la dimension que représentait la réalisation du film, j'ai pris peur. Parce que ça devenait une vraie production, une vraie réalisation avec plein de choses à mettre en place. Donc ça s'est fait en fait en plusieurs temps. Étant donné que je n'avais pas encore super confiance en moi, que je n'avais jamais vraiment réalisé quoi que ce soit, même pas vraiment du tout, puisque le premier film s'était fait complètement de façon instinctive, je me suis dit, je vais prendre la scène la plus difficile. Si j'y arrive et que je suis contente et que je trouve ça beau, je me lance. Et donc un an avant le véritable tournage du film, en fin de saison en plus, en fin d'été, je me décide à faire la scène de mariage. Scène de mariage, il y a, je ne sais pas quoi, une dizaine d'apnéistes dans l'eau, ça veut dire doubler la sécu en surface, des gens habillés, prévoir le bateau, prévoir les chorégraphies, installer un décor. Bon, il y avait tout ça à mettre en place. Et il y avait, en amont, trouver les gens qui étaient prêts finalement à participer à cette aventure. Donc j'ai appelé tous mes amis, tous mes potes apnéistes du coin, et ils ont tous répondu présent, et ils étaient en fait hyper motivés et intéressés par cette aventure, parce que finalement, voilà, ça arrive pas tous les jours, et c'est génial de voir à quel point on arrive à créer vraiment une émulation autour d'un projet et d'utiliser encore une fois l'apnée différemment. Tous ces gens qui ont l'habitude de faire du câble et à s'entraîner à de la profondeur ou à être sur des choses un peu plus, on va dire, personnelles. Là, c'était un vrai espace de partage et de communauté. Et on a eu une demi-journée pour tourner cette séquence. Donc nous, la veille, on a tout préparé en amont. Une semaine avant, j'avais appelé tous les gens pour préparer, leur dire d'emmener leur propre costume. Donc voilà, vous venez comme vous venez à un mariage, des fringues auxquelles vous tenez pas trop, des chaussures que vous êtes prêts à jeter après, emmener du plomb, du poids qu'on mettra sous vos habits. Donc voilà, chacun était un peu autonome, parce que sinon j'y serais jamais arrivée. Donc tous ces gens-là sont arrivés, on avait installé le décor la veille, donc installé les chaises, plomber les chaises, les couler, trouver l'endroit, enfin repérer l'endroit où j'allais le faire pour que ce soit pas trop profond non plus. Parce que bien que tu sois apnéiste, habillé avec un costard ou une robe de soirée, dans une eau à 19 degrés, tu ne restes pas longtemps. Donc voilà, j'avais trouvé un fond de sable dans 8 mètres, entouré de posidonie. On s'est mis en fond de baie dans la rade de Villefranche, dans un endroit plutôt calme. On avait surveillé la météo. Alors installé, j'avais une espèce de pergola avec des fleurs et des machins. Bon, mon Dieu. J'avais fait des tests aussi avec le riz. J'avais visualisé ce truc de voir des projections de riz. J'avais fait des petits tests en avant et qui étaient vraiment très probants. J'avais trouvé ça super beau. Et le jour du tournage, voilà, tout le monde hyper, hyper motivé. Tout s'est passé très vite. Énormément de répétitions sur terre avant. Et aussi, une grosse mise en place de la sécurité. Donc, il y avait plein de flotteurs en surface sur lesquels pouvaient se poser les apnéistes. Deux apnéistes de sécurité par personne. Et aussi, une sécurité entre les apnéistes. Ouais, ils étaient toujours par deux et ils devaient s'auto-surveiller en fait, quand ils remontaient à la surface. Finalement, je fais le tournage, je récupère toutes mes images et on fait le montage de cette fameuse scène de mariage qui est une des scènes du film, et je suis trop contente. C'est hyper beau, c'est vraiment à la hauteur de mes attentes, c'est comme je l'ai imaginé, et je me dis, bingo, je suis capable de réaliser le film l'année prochaine, je me lance et je tourne toutes les autres scènes. Donc en fait, l'histoire de Narcos, c'est la plongée intérieure d'un apnéiste en profondeur et c'est la mise en abîme finalement de son ressenti et de son vécu émotionnel quand il plonge aux profondeurs et quand il fait face à ce qu'on appelle une narcose, c'est-à-dire qu'il y a un échange de gazeux qui fait qu'il est un peu euphorique et qu'il a des visions. Donc tout le début du film, c'était un peu un docu-fiction pour moi. Donc ça commence comme un documentaire où on est sur le bateau, on a une caméra embarquée pour qu'on sente vraiment tous ces mouvements de respiration, pour qu'on puisse être en immersion déjà et qu'on sente que c'était un film qui se passe à l'intérieur. On est vraiment dans la vision de l'apnéiste, il y a les gens qui passent autour, il est dans sa préparation, on sent la respiration, il se met à l'eau, et là il est sur son câble et il s'apprête à descendre, il prend sa dernière inspiration, et c'est là qu'il y a un premier flash, où on le retrouve finalement dans un lac de montagne, qui est dans la RPI niçois, alors pareil, tout truc de fou, on a dû monter un espèce de catamaran qu'on avait fabriqué, poser la caméra dessus pour faire un plan où la caméra tourne autour de Guillaume qui vient s'intégrer au plan de la caméra qui tourne autour de Guillaume en mer, donc il y a une espèce de transition finalement entre la mer et la montagne pour montrer qu'on passait en fait dans un monde intérieur et ce monde de calme, de montagne où il va chercher cette dernière inspiration dans les plus grandes hauteurs, voilà cet air pur dans les montagnes, et après il plonge, et on a toute la descente qui se fait d'abord dans le bleu et après le long d'un tombant, vraiment pour qu'on puisse sentir l'ambiance des profondeurs, parce que finalement le monde marin est pas du tout un monde silencieux, et j'avais envie qu'on sente un petit peu aussi ce côté organique et vivant de la mer. Et toute la descente, c'est voilà une descente classique d'apnéiste où on le suit et on sent qu'il s'enfonce dans les abîmes et dans les profondeurs, qu'il arrive sur cette lumière qui est la fin de son voyage, où il va prendre ce témoin qui va ramener à la surface, partager finalement avec tous ses coéquipiers. Et c'est là qu'il se passe quelque chose. On sent qu'il y a un changement d'ambiance, il y a des petits bruits bizarres et il commence à remonter. Et là, il a un premier flash. Alors, j'avais énormément à cœur de mettre cette image de l'œil et de la pupille qui se dilate, comme dans le film Requiem for a Dream, qui pour moi est vraiment le signe d'un flash hallucinatoire, hallucinogène. Sans que, voilà, il se passe quelque chose. Donc, il y a l'œil, il y a les bulles, on voit sa cage thoracique qui s'expand, son diaphragme qui bouge. Et un premier flash où il est coincé dans une bulle. Alors ça, c'est un des rares effets spéciaux qu'il y a dans mes films. C'est cette bulle qui a été faite du coup en image de synthèse. Et on a tourné juste Guillaume dans le bleu qui se débat et on a construit finalement cette petite bulle autour pour dire qu'il se débat entre deux états de conscience. Donc après, il continue, il remonte et il y a le fameux gremlin. Première narcose qu'il ait jamais eue. Il me dit, j'ai vu un gremlin qui ricane et qui sautille. Alors là, je me dis, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais mettre ça en scène? Je dis, je vais prendre des morceaux du vrai film Les Gremlins. Je dis, mais ça va être trop bizarre, j'aurai jamais le droit. Et assez rapidement, je me suis dit, ben oui, il faut que je le fasse en animation. Parce que je suis fan d'animation, que j'adore la BD et que ça fait partie de mes grandes sources d'inspiration. Et du coup, j'ai contacté un animateur que j'adore, en fait, que j'ai découvert sur Internet. J'étais complètement fan de ce qu'il faisait, je le connaissais pas du tout. Et au culot, je l'ai contacté. Et en fait, il s'avère que ce garçon qui s'appelle Fursi Tessier avait adoré Free Fall. Il a dit « Oh là là, j'adore ton univers, banco ». Et donc, il a dessiné le fameux Gremlins. Il y a mis sa patte. Voilà, tout le début, on voit, en fait, on passe d'une image, d'un gros plan de la tête de Guillaume qui est en prise réelle et qui se transforme en dessin. Et après, on rentre complètement dans le dessin. Et on a toutes ces images de Gremlins qui est en train de sautiller dans les profondeurs. Et on le voit qui revient à la réalité et on le voit finalement qu'il est toujours dans cet état en apnée, en train de remonter vers la surface malgré tout. Il y a cet état naturel de conscience qui le ramène vers la surface. Et donc là, il y a un très beau plan qui nous a pris 3 jours, qui est un plan très profond, qui a été tourné à 45 mètres de profondeur. C'est le plan le plus profond que j'ai jamais fait en apnée. Juste après que le Gremlins avale l'image, il y a un plan large de Guillaume qui remonte. Et en fait, On est de très très loin et on se rapproche de lui tout en remontant et tout en tournant autour de lui. Alors voilà, ce plan, pour pouvoir le faire, on avait besoin qu'il dure longtemps. Et pour durer longtemps, on avait besoin de descendre très profond. Le plan, c'était que Jacques Ballard, mon chef opérateur, qui était en bouteille, m'attendait à 45 mètres avec la caméra. Que moi, je suis descendue avec un scooter sous-marin entre les jambes, jusqu'en bas. Il m'allume la caméra, je prends la caméra, on fait un signe à Guillaume qui est descendu en même temps que moi, n'est-ce pas, en apnée. On se fait un go et on commence le plan. Moi, il faut que je sois à la bonne distance et à la bonne vitesse pour pouvoir filmer Guillaume de plan large à plan serré, sans le perdre et en cadrant bien. L'enfer. Et tout ça, évidemment, avec un one shot. Parce qu'on ne peut pas répéter des plans à 45 mètres 10 fois dans la journée. Donc, 3 jours de suite. Alors après, il y a Guillaume qui court. J'avais envie d'illustrer, voilà, souvent, hein, on a tous vécu ça, quand on est poursuivi dans un rêve, par quelque chose, on n'arrive pas du tout à courir. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'eau. Vraiment, hein, on est repoussé, on est contraint par l'eau et on n'arrive pas du tout à avancer. Donc on est pareil, on a fait des repérages, j'avais ce tombant super beau. On a plombé Guillaume avec... un peu dans le jean, parce qu'il est habillé en jean, et il court sur le fond de l'eau, comme poursuivi par un monstre. Et là, c'est pareil, c'est moi qui cadre à la palme pour pouvoir bien le suivre. Et après, il saute à nouveau dans un gouffre et il se laisse tomber un peu dans les profondeurs. Donc, il y a le mariage. Et alors, en plus, moi, j'étais enceinte de 5 mois. Donc, me vlati pas avec, en essayant d'enfiler ma combinaison avec mon gros bide. Et j'ai dû prendre une doublure. Parce que la mariée dans Narco, ce n'est pas moi. C'est ma grande amie. On m'a toujours dit, on dirait ta sœur. Et je dis, bon, bah voilà. Et c'est absolument elle qui va faire le truc. C'est pour ça que je lui ai mis un masque. Donc, ça s'ouvre sur un truc un peu abstrait où on voit des corps, des bouts de corps qui flottent. Et après, on rentre finalement dans cette scène où il y a tous les gens de dos, assis sur des chaises, sous l'eau, avec au fond notre cher prêtre, avec nos deux mariés. Et à la fin, une scène magnifique que j'adore, où tous les invités lancent du riz sur les mariés, et on a le riz qui flotte dans l'eau, qui renvoie cette belle lumière. Et on arrive à la scène d'orgie. C'est la scène de danse où, ma deuxième passion dans la vie, c'est la danse. J'avais vraiment envie de voir des corps dans l'eau, synonyme de sensualité, de beauté, de grâce. Ce moment où on se rapproche de la surface et où on arrive au but. Cette espèce de libération était pour moi vraiment illustrée par ce moment sublime avec tous ces danseurs. Donc on voit plein de danseurs, ça a été filmé en mer aussi, de nuit avec des projecteurs qui éclairent. Et j'ai fait appel à une école de danse et je leur ai demandé de descendre comme un groupe, comme une espèce de banc et de faire des mouvements gracieux en faisant cette espèce d'entremêlement des corps. Et après les corps dansants, vient la scène de moi enceinte. Et c'était pas prévu. J'avais écrit la scène du film, j'avais pas prévu d'être enceinte forcément. Donc pour moi, c'était juste une belle scène de moi dans l'eau, dansant, dans un fond noir, qui s'est finalement transformée en scène de moi enceinte qui danse. Donc 10 jours avant d'accoucher, me voilà dans la piscine. Plus sécuritaire, donc moins de contraintes météo, moins de contraintes au niveau de la température de l'eau, mais beaucoup de préparation. La moitié de la piscine a été recouverte de tissu noir pour faire cette ambiance noire. On a installé plein de projecteurs pour créer cette belle ambiance de lumière. Et privatiser une piscine de nuit, faire venir des gens la nuit pour tourner, toute une mise en place aussi. Et beaucoup me ménageaient moi, parce que j'étais quand même presque à terme et que tout le monde se disait « Bon Dieu, elle va accoucher dans l'eau !» Donc dans cette séquence, on me voit, moi, avec ce beau gros ventre et ces formes plantureuses, en train de bouger, de danser dans l'eau, et pour finir finalement en position de fœtus. Et un autre plan que j'aime beaucoup et qui est encore une fois un plan, le deuxième plan finalement est le seul avec des effets spéciaux où on a un zoom arrière, où finalement c'est le retour à l'état de cellule, c'est le retour à l'univers, c'est la communion où tous ces effets de lumière et je viens de plus en plus petit et j'explose dans un éclat de lumière et là on voit Guillaume qui revient à la surface et qui prend sa dernière inspiration et qui vient partager cette magnifique expérience avec tout le reste de son équipe. Il y a des plans finalement qui sont beaucoup plus faciles en bouteille, il n'y a pas de raison de ne pas les faire en bouteille. Et moi je prends la caméra quand c'est des plans extrêmement dynamiques ou qui nécessitent d'être profond, d'aller vite, de tourner, où on a besoin de ne pas avoir de bulles et où on a besoin de descendre très très vite ou de remonter très très vite. Donc tous ces plans-là, c'est moi qui les fais en apnée. Pareil, tous les travelling latéraux où on a besoin d'être extrêmement mobile, ça aussi c'est moi qui les fais en apnée. Plus j'ai fait de films et plus j'ai compris finalement comment fonctionnait une caméra. Pas forcément techniquement parce que je suis toujours aussi nulle. Donc, on peut être nul en technique caméra et faire de très bons films parce qu'il ne faut pas que ce soit un frein à la créativité. Parce qu'on ne fait jamais des films tout seul. Je trouve que c'est important de ne pas penser qu'on a la science infuse et qu'on peut tout faire. Et j'aime beaucoup ce travail d'équipe finalement où on partage. Moi, j'apporte finalement ma vision. Moi, je ne suis pas du tout bridée par la technique parce que je n'en ai pas. Donc du coup, j'ai plein de trucs que personne ne pense à faire, mais c'est juste parce qu'ils pensent que c'est pas possible. Alors que moi, on m'a pas dit que c'était pas possible. Alors je me dis, mais moi je fais ça, je vais filmer en latéral ou je vais filmer en horizontal. Il me dit, mais t'es sûre ? Je dis, oui, pourquoi ? et du coup, voilà. Et donc c'est important aussi de pouvoir se lâcher et de pas avoir peur de se lancer. Et, voilà, moi, ma chance, c'est d'être entourée parce que je pense être les meilleures. Le plus difficile pour moi, c'était de faire des images stables. Surtout que j'ai pas une grosse caméra et en fait, d'avoir une grosse caméra, ça aide énormément à être stable. Plus les caméras sont petites et plus ça bouge. Et comme je suis en apnée, je peux pas prendre de grosses caméras. Donc j'ai dû mettre en place plein de techniques. Alors au début, j'avais les bras hyper tendus et j'essayais de vraiment de bloquer ma caméra. Et en fait, je me suis rendu compte que le plus important, c'était pas ça. C'est pas la caméra qui doit bouger. C'est le corps qui doit bouger autour de la caméra et c'est la caméra qui doit bouger autour du personnage. Parce que souvent, les cadreurs en bouteille ont souvent l'habitude de suivre le personnage avec la caméra ou de faire des traversées d'écran. Alors que moi, non, moi je bouge avec mon personnage. Et ça, je pense que c'est ce qui a apporté notre petite touche et qui a fait un peu la différence avec nos images en apnée. Mes images en apnée, c'était que j'avais une espèce de totale liberté et que je ne suis pas en train de tourner ma caméra, quoi. Je fais vivre la caméra et je fais rentrer finalement le spectateur dans la peau d'un apnéiste, dans la peau de... comme s'il était finalement en immersion. Ça permet vraiment de créer une émotion et une connexion avec l'élément. Et puis de plus en plus, j'ai appris à me connaître et à connaître aussi ma flottabilité. Parce que souvent, on descend et puis hop, on remonte à la surface, hop, on est trop lourd. Et j'utilise énormément le poumon ballast. Dès que je descends, je sais à peu près combien d'air je dois prendre pour être stable, à quelle profondeur. Ou quand je fais des plans en remontant, pour pas remonter trop vite à la surface sur la fin, je crache mon air tout au long de la remontée. Donc ça, c'est des choses que j'ai apprises au fur et à mesure. Et je fais énormément aussi de micro-mouvements. Quand j'ai tourné aux Philippines, il y avait un de nos apnéistes de sécurité qui était halluciné. Il m'a dit, mon Dieu, Julie, c'est extraordinaire de te voir. On dirait un espèce de petit drone, là, bis, 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 qui fait tous ces petits ajustements. Et donc, alors c'est drôle, je prends toujours des positions abracadabrantesques avec... En plus, je suis souple, alors j'ai une palme à droite, une palme à gauche. Je fais un petit mouvement de palme par-ci, un petit mouvement de main par-là. Et j'ai la grande et immense chance d'être ce qu'on appelle en apnée BTV. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de mes mains pour compenser. Et ça, ça change tout. Parce que quand on descend et que tout d'un coup, on suit un personnage et qu'il veut lâcher la caméra parce qu'on a besoin de compenser ses oreilles, eh bien, c'est foutu. Le plan, il bouge. Et moi, j'ai pas besoin de ça. J'utilise ma glotte, j'utilise les péristaphylins, qui sont les muscles qui font permettre d'ouvrir les trompes de Stache. Et du coup, j'ai tout le temps les mains sur la caméra, ce qui fait que je perds jamais la stabilité. Il y a encore un autre gros avantage de tourner en apnée, c'est pour approcher les animaux. Jusqu'à maintenant, avant One Breath Around the World, on n'avait pas fait de film avec des mammifères, des animaux marins. Et là, on avait envie finalement de mettre en scène un peu de la vie marine. Et je me suis rendu compte que l'apnée, c'était absolument fabuleux pour approcher la vie marine, parce que c'est un respect total. On est d'égal à égal avec l'animal, et donc il y a beaucoup beaucoup moins d'appréhension de l'animal envers nous. Il y a pas de bruit. Il y a une capacité de réactivité aussi, parce qu'il faut se mettre à l'eau quand même super vite quand on a besoin de plonger à côté d'un cachalot qui avance. Si on a réussi, je pense, à filmer les cachalots en train de dormir, c'est parce que on se met à l'eau tout doucement, on prend le temps, on parle en surface, on fait pas de bulles et on descend avec une douceur et un respect absolument inégalable. Souvent, on pense au temps qu'on peut rester en bas, mais finalement, c'est pas quand on est bon apnéiste, on a plus intérêt à faire des plans en apnée que des plans en bouteille, particulièrement pour les plans profonds, parce que finalement, quand on est profond en bouteille, on peut rester très peu de temps et on passe beaucoup de temps à remonter. Et que plonger profond en apnée, on peut le faire toute la journée. Bon, évidemment, ça demande du repos, mais il n'y a vraiment pas de limite en nombre de plongées. Bon, forcément, si on commence à faire des plans à 45 mètres, on ne fait pas les malins et on fait très attention. Mais c'est ultra rare. Tournage en apnée, ça se fait entre 0 et 20 mètres, jamais plus. Parce que déjà, on perd la lumière, que ce n'est pas intéressant, que c'est trop compliqué, c'est trop fatigant. Voilà, l'intérêt des plans bouteilles, c'est des plans superposés pour faire des plans fixes, super beaux, des gros plans. Ça, c'est génial. Ça n'a aucun intérêt de le faire en apnée. Dès qu'on a besoin de bouger, pour moi, l'apnée, c'est le Graal.
Au Japon, les hommes pêchant toute l'année en haute mer, la récolte des mollusques a toujours été réservée aux femmes. Malgré leurs équipements en néoprène, les amas ne plongent que 3 heures par jour pour préserver les populations de mollusques. La saison s'étend de mars à septembre. Pour protéger la vie marine, les amas n'ont pas le droit d'utiliser des bouteilles de plongée. Ça ne leur viendrait même pas à l'idée. Les amas plongent à une profondeur de 5 à 15 mètres durant 1 minute 30. Et elles font cela une soixantaine de fois en 90 minutes. Autant dire que les pauses sont rares. La mélodie de la mer, c'est ainsi que les Japonais surnomment le sifflement des amas. Une technique ancienne, très efficace pour favoriser l'hyperventilation.
Quand je suis en plongée, j'ai l'impression de marcher dans le ciel.
Quand je plonge, je sens beaucoup mieux mon corps. Je suis plus agile que sur la terre ferme. Dès que je suis dans l'eau, toutes mes douleurs disparaissent. Même mon dos ne me fait plus mal. Je connais tous les recoins du fond marin. Je me rappelle même où j'ai trouvé un ormeau des années auparavant. C'est une vraie obsession pour moi de capturer des awabis. C'est presque une drogue. Dès que j'en trouve un, j'ai l'impression de reprendre de l'air frais et du coup, je continue à chercher. Alors que je devrais remonter pour respirer, mon corps me retient au fond. C'est tellement stimulant. Je voudrais vraiment pouvoir rester au fond.
Amas, ça m'a pris 8 ans de réflexion. Donc, je me remets à la danse parce que ma mère est danseuse. Donc, depuis toute petite, je danse aussi. Plus je me dis, waouh, le mouvement dans l'eau, c'est quelque chose qui a une force incroyable. Donc, je réfléchis à ça beaucoup. J'essaie de travailler un peu parce que le mouvement dans l'eau, ça n'existe pas. Je commence à faire des recherches. Je vois qu'il y a des choses qui se font un peu, mais c'est plutôt des filles proches de la surface. Moi, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Différent encore de la natation synchronisée. Et je commence à travailler. Je fais des premiers tests en piscine où je me filme. Je travaille, je prends des cours de danse contemporaine. J'essaie de retranscrire des mouvements dans l'eau. Je me plonge, je marche au fond de la piscine et waouh, ça commence à bien fonctionner. Et pouf, je tombe enceinte. Et au-delà de faire quelque chose de beau, de faire une belle chorégraphie, des beaux mouvements, j'avais besoin d'y apporter un sens. parce que la danse et le mouvement, c'est beau, mais ça procure de l'émotion. Je trouve que si on a quelque chose de profond à raconter à travers ce mouvement. Et pouf, un événement de vie, des grandes épreuves de vie qui font grandir, m'arrivent, me tombent dessus. Quand je me relève de ça, je me dis, voilà, ce film, ce projet, je veux le dédier, ce film et cette histoire, et à travers mes mouvements, ce don que je vais faire à travers l'image, je veux raconter ça. Je veux raconter ça sans vraiment raconter. Parce que, avant tout, Ama, c'est un film sur le partage d'émotions. Ce que j'avais envie de raconter, c'était la capacité immense des femmes, parce que c'est quand même un hommage aux femmes, cette capacité de résilience, cette capacité de cette force qu'on a finalement, malgré le poids du chagrin, de la vie, on arrive toujours à retrouver la lumière et à expulser finalement tous ces mauvais souvenirs et d'en faire quelque chose de beau. Voilà, comment par la beauté retranscrire une émotion et surtout la partager, montrer. Parce que Ama, c'est un film, c'est pas un film triste, c'est un film qui procure de l'émotion, c'est plutôt libérateur. Ça reconnecte finalement à cette capacité qu'on a de pleurer, d'être ému, d'être touché, de se reconnecter à des choses difficiles de la vie qui sont essentielles. Parce que sans drame dans la vie, on n'évolue pas. C'est pour ça que je l'ai appelé Ama. C'est parce que pour moi, les Ama, qui sont les femmes de la mer en japonais, c'est une communauté de femmes qui se soutient, qui vivent à travers cette passion de l'eau et qui ont une force incroyable parce qu'elles font un métier d'homme, parce qu'elles se battent contre des préjugés, contre plein de choses. Et quand on voit des photos de Ama, mais elles rayonnent et je trouve ça magnifique. Au-delà d'une performance physique et d'une œuvre artistique, il y a aussi tout un côté technique. On a été donc à Y40, qui est la piscine la plus profonde du monde, qui se trouve en Italie, qui est un lieu absolument extraordinaire. Et en fait, au fur et à mesure que j'écrivais à main et que je faisais les répétitions, parce que j'ai fait beaucoup de répétitions, donc un mois de travail d'improvisation sous l'eau, filmée toute seule dans ma piscine, avec une GoPro collée sur le mur, je voulais qu'il n'y ait aucun raté, aucun petit mouvement de dérapage, de nage, de machin. On devait oublier l'eau, en fait. L'idée, c'était vraiment de la faire disparaître. En fait, c'est Ophélie Longuet, ma prof de danse, qui me propose une musique d'Ezio Bosso, Rain in Your Black Eyes. Et là, j'entends la musique, et là, je frissonne de partout, et je me dis, waouh, voilà, c'est ça. Cette musique raconte l'émotion que je veux transmettre. Et tout de suite, je vois les fameuses visions. Et je dessine d'ailleurs, j'ai un petit croquis tout moche, trop rigolo que j'ai gardé, où je vois ce plan de large à très très serré sur les yeux avec la pluie qui tombe et le fond noir. La pluie, cette pluie qui nous introduit dans l'eau et ce plan fermé, ce plan serré sur les yeux qui, pareil, amène dans une intériorité avant de rentrer dans l'eau. Et après, on a eu 15 jours et demi de tournage. J'ai fait, mais je ne sais pas combien de descentes. Je ne veux jamais trop de bulles. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui, quand ils font des tournages en apnée, mettent leur apnéiste en bouteille sous l'eau, en fait, avec un détendeur et un sécu, en fait, qui lui fait respirer de l'air au fond. Mais ça met des bulles partout et moi, je déteste ça. Donc je voulais vraiment que tout se fasse en apnée. Donc j'avais ma petite frite. Donc je descends avec ma gueuse pour m'installer sur les 10 mètres de profondeur sans faire trop d'efforts. J'atterris au fond. Je lâche ma gueuse et l'apnéiste de sécurité la remonte pour qu'elle sorte du champ. Pendant ce temps-là, je crache un peu d'air pour être plus lourde et je lève la tête pour laisser l'eau rentrer dans mes sinus et chasser l'air qu'il y a dans mon nez. Ça, c'est super important parce que sinon, il y a tout le temps des bulles qui sortent et c'est hyper désagréable et on a tendance à froncer les yeux et à avoir un visage pas relâché. Et ensuite, je m'occupe de mes cheveux parce que les cheveux, c'est l'horreur. Voilà. Il faut enlever les bulles, il faut bien les placer pour pouvoir commencer dans des bonnes conditions. Et ensuite, Ama, il faut savoir que ce n'est pas 6 minutes d'apnée continue, c'est un montage. Et c'était pour ça aussi que j'avais besoin que la chorégraphie soit bien planifiée à l'avance, parce qu'en dehors de planifier la chorégraphie, il fallait planifier le placement de la caméra, les plans. Donc il y avait deux travaux à faire là-dedans. Je l'ai fait un peu en amont, mais j'ai fait énormément confiance aussi avec mon chef opérateur parce que c'était très difficile pour moi d'avoir la double casquette de réalisatrice et de danseuse, hein, d'être à l'image. Là, j'avais fait tout un listing de plans en fonction des mouvements où devait être placée la caméra. Et donc à chaque fois, je faisais une prise d'à peu près 2 minutes, 2 minutes 30, pendant laquelle je répétais toujours la même séquence. Donc 3-4 fois d'affilée, je descends, je me place au même endroit, je fais ma chorégraphie, je m'arrête au même moment, je remonte, je récupère 3-4 minutes, je redescends et je recommence tout le truc, jusqu'à ce que mon chef-op me fasse « Ok, on passe à autre chose ». Et on continue, on repart de la fin du premier plan, je reprends en arrière et je refais les mêmes mouvements, ce qui fait qu'il y a une continuité absolue et en fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait de coupure dans le montage du film. C'est vraiment une sensation de fou, quoi, d'être à 10 mètres de profondeur et d'entendre là cette musique classique qui te transporte, voilà, c'est fabuleux. Il y a des gens qui ont souvent un rapport très pulsionnel à la mer, qui ont un besoin viscéral d'être tous les jours dans l'eau. Moi, je suis pas comme ça. Pour preuve, je vis à la campagne, au milieu des chèvres, où je vois pas la mer. Mais j'ai besoin d'être proche de l'eau. J'ai plus envie de la protéger que de la consommer. J'ai besoin qu'elle soit présente. Comme une mère. Nos mères, hein, on a envie de les voir, on a envie de les avoir pas loin, mais on n'a pas envie de vivre tous les jours avec. Et ben moi, mon rapport à la mère, c'est la même chose. J'ai un immense respect, j'ai un besoin de partager l'amour que j'ai pour elle, mais j'ai besoin aussi de un peu la laisser tranquille. Ça devient trop un terrain de jeu, ça devient trop une source d'activité, même peut-être trop de loisirs. Alors c'est bien, et pour l'aimer, on n'est pas obligé de la consommer. Voilà, je pense que l'image, elle transmet ça, et ma façon de travailler, elle transmet un peu ça. Je suis pas en train de faire un film tous les deux mois. J'essaie d'attendre qu'elle m'appelle et qu'elle me dise tiens, là il y aurait un petit truc à raconter. Là, ça serait bien de réveiller les gens et de leur montrer que je suis toujours là.
Avec les films engloutis, son label, Julie crée un mode d'expression totalement inédit et inspirant. Pour son prochain projet, elle continue à nous partager son univers et souhaite développer un duo dansé sous l'eau avec une danseuse étoile mythique. Elle a aussi pour ambition d'ouvrir un centre dédié à la respiration au bord de la Méditerranée. Retrouvez le portrait de Julie sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme, océanologue, qui est partie à la conquête des abysses.